Je sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, avec tous ces chocolats, la motivation pour aller faire du sport est en dessous de zéro. Heureusement qu'à la télé, on a trouvé plein d'athlètes qui voulaient bien en faire pour nous.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du meilleur du foot anglais et portugais en exclusivité avec la fibre starter et SFR Sport à 19,99€ par mois. Et pas seulement la première année. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition d'éligibilité valable jusqu'au 8 janvier 2018, réservée aux nouveaux clients. Plus 5€ par mois de location box, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€.
RMC, Motor, le best-of, Jean Lecroix.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce Motor tout à fait spécial, puisque c'est le dernier jour de l'année, et oui, nous sommes déjà le 31 décembre 2017. Attention au réveillon ce soir, et surtout, on ne conduit pas si on a bu, je vous le rappelle. On ne conduit pas si on a bu en Formule 1, ou en tout cas de l'eau et des boissons rafraîchissantes. C'est la première page de ce spécial best-of de Motor, c'est le tour de chauffe. On va revenir notamment à Monza avec Lewis Hamilton en pôle. Et puis, juste après le Grand Prix de Malaisie également, on reviendra sur la 11e pôle d'Hamilton au mois d'octobre. Et puis, on terminera notamment par le Grand Prix du Brésil où Hamilton a été titré. Le tout, c'est dans Motor, le best-of du 31 décembre.
RMC Motors. Dans le rétro.
13e Grand Prix de la saison 2017 qui va se dérouler sur le mythique tracé de Monza avec une très belle grille, hein, Patrick, nous l'avons dit. Alors, on va en dire un mot. Allez, quand même, on va dire notamment, je voudrais ton avis, sur la 69e pole position de la carrière de pilote de Formule 1 de Lewis Hamilton. Ça y est, il a effacé ou il devance sur les tablettes Michael Schumacher.
Oui, bon, il y aura les victoires après. Et puis, je crois qu'on... On va s'arrêter là, hein, parce que c'est avec l'engin qu'il a, je vois pas comment il aurait pu faire autrement.
D'un autre côté, regarde, Valtteri Bottas a eu beaucoup de mal, hein, en qualif.
Oui, ils étaient à tous les deux à peu près dans les mêmes temps, et les pilotes Ferrari, idem, les pilotes India aussi. Donc, si tu veux, c'est un circuit qui met en exergue la qualité du intrinsèque des machines plutôt que des
pilotes, sauf sous la pluie.
Voilà, hein, parce que là, oui, sauf sous la pluie, c'est pareil. Voilà. C'est pareil.
Ouais. Adrien, justement, on a commenté cette qualif plutôt mouvementée hier, hein, c'est peu de le dire, puisqu'au total, ça a duré plus de 3h40. On arrive à une grille qui est étonnante, on va entrer dans le détail un instant, mais en tout cas avec deux très jeunes pilotes, notamment Lance Stroll sur la première ligne et Esteban Ocon sur la deuxième. Ça, peut-être seul le mouillé quand même peut le permettre, hein.
Effectivement, Jean-Luc, c'est les seules conditions dans lesquelles Lance Stroll et Esteban Ocon pouvaient se retrouver sur respectivement la première et la deuxième ligne, des conditions dantesques hier où on a vu un Lewis Hamilton bien au-dessus des concurrents. Il a collé 1,5 seconde au deuxième, donc là pour le coup le pilote a fait la différence, et par contre pour Esteban Ocon c'est une formidable performance quand on sait que son coéquipier n'est pas parvenu à aller en Q3, donc ça va être aujourd'hui très très chaud, et on attend la course avec impatience pour voir ce que le pilote français va faire.
Louis, on l'a dit, mais tu l'avais prévu, tu l'avais annoncé hier, les prévisions météo sont bonnes. On a vu des courses ce matin en GP3 et en Formule 2 extrêmement mouvementées, parce qu'on le rappelle, et c'est un élément important, à Monza, on peut dépasser, notamment avec les zones de DRS.
Exactement, beaucoup de possibilités de dépassement. C'est pour cela que certaines écuries ont choisi volontairement d'être pénalisées ici. On pense au Red Bull par exemple, hein, qui ont décidé dès avant ce week-end de prendre des pénalités pour ne pas avoir à les subir à Singapour, où là il est évidemment beaucoup plus difficile de dépasser. Des courses ouvertes, des courses souvent très spectaculaires, et évidemment le côté spectaculaire est renforcé par cette espèce de grille étrange, cette grille à front renversé avec des jeunes pilotes devant avec des favoris plutôt à l'arrière. Donc ça nous promet en effet un grand spectacle. Et je te confirme que les prévisions météo annoncent une course entièrement sèche, donc la pluie ne viendra pas aujourd'hui la perturber.
On revient à cette grille de départ emmenée par Lewis Hamilton pour la 69e fois de sa carrière de pilote de Formule 1 en 201 Grand Prix. C'est un ratio absolument extraordinaire, un ratio formidable. À ses côtés, il y aura Lance Stroll, on va en parler dans un instant. Mais avant, je voulais qu'on aborde, Louis, le chapitre Ferrari. Évidemment, on est sur les terres de Ferrari. C'est le temple de la vitesse, on vous l'a dit, la Scuderia qui fête d'ailleurs la marque Ferrari qui fête ses 70 ans, c'est fêté également sur les monoplaces. Enfin, on a vu tout un tas de cérémonies qui ont été organisées autour de ça. Et il y a eu des problèmes en qualification. On va écouter, tiens, tout de suite, je vous le propose, au micro de Louis Amar, ce qui s'est passé pour Sébastien Vettel, qui ne partira que sixième sur la grille de départ.
Oui, ça ne s'est pas passé comme nous le voulions, mais c'est comme ça. De toute évidence, nous n'avions pas la vitesse nécessaire, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne et qui doit nous servir pour la suite. Mais bon, il faut aller de l'avant, la course s'annonce excitante avec pas mal de dépassements. Normalement, elle va se dérouler sur le sec. On a le rythme qui nous permettra de remonter. Donc, ça va être bien de se battre pour revenir devant.
Alors, on va continuer puisqu'il y a plein de réactions à vous faire écouter, notamment celle de celui dont on va parler maintenant et dans quel terme. Et tiens, on va commencer par Adrien. Esteban Ocon, super qualif. Hein, Adrien, on s'est enthousiasmé hier puisque il signe le cinquième temps sur la piste et par le jeu des pénalités, on l'a dit, qui ont frappé les pilotes Red Bull, il partira sur la deuxième ligne dans les roues de Lewis Hamilton.
Quelle journée, hein, incroyable. Non, c'est vraiment, c'est super, quoi. C'est voilà, avec les conditions qu'il y avait, on savait qu'il y avait une opportunité si je faisais un bon tour, si je mettais tout dans l'ordre. Si j'arrivais à me démarquer un peu des autres et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc vraiment top. C'est clair que je veux ce podium et ça fait longtemps que je le veux, donc voilà, il y a une opportunité ici, il va falloir la saisir.
RMC Motors, le best-of.
C'est donc le 17e Grand Prix de la saison à Austin. Adrien, on a déjà vu une belle bataille pour les qualifs, finalement un poil plus serré que ce à quoi on s'attendait compte tenu de la domination exercée par Lewis Hamilton. On le rappelle, le plus rapide sur les trois séances d'essais libres et le plus rapide des trois Q1, Q2, Q3.
Mais en fait, Sébastien Vettel a finalement fini par tenir son rang en Q3 parce qu'il était un peu plus absent en Q1 et en Q2. Et par contre, en Q3, il a réussi à faire un chrono à 2 dixièmes et demi de Lewis Hamilton qui correspond un peu plus à son niveau de performance, en tout cas à ce qu'il doit faire s'il veut rester dans la course au titre. Et ça va être très compliqué aujourd'hui pour aller devancer Lewis Hamilton.
Alors, avant évidemment de s'intéresser plus aux faits, on va rentrer dans le détail avec malheureusement encore des pénalités qui ont frappé de nombreux pilotes. On revient sur la trajectoire de Lewis Hamilton. On peut dire que jusque-là, alors qu'il reste 4 Grands Prix à disputer, avec donc 11 pole positions, ça c'est déjà acté pour cette saison, 72 pole positions au départ, il a enfoncé toutes les barrières. On l'évoquait dans les grandes gueules, je ne sais pas si tu as écouté tout à l'heure, mais c'est déjà une légende du sport automobile et il est en route vers son 4e titre. Je crois que même si on le vit actuellement, et ça n'est pas fait, il faut se prendre un tout petit peu de recul et se dire qu'on a vraiment affaire à un monument du sport automobile.
Ah, mais clairement, c'est un des pilotes qui fait partie de l'histoire du sport automobile. On parle de Senna, on parle de Michael Schumacher, on doit parler de Lewis Hamilton, on doit aussi parler de Sébastien Vettel parce qu'il a aussi beaucoup de titres et qu'il a bien dominé,
voilà, de rang.
Avec une écurie qui n'était pas qui était constructeur pas de voiture mais de boisson.
donc ça de boisson énergétique.
De boisson énergétique, faut le souligner aussi, il a réussi à faire de grandes choses, Sébastien Vettel. Par contre, pour Lewis Hamilton, c'est vrai que cette année surtout, il a pris une dimension extraordinaire, un peu libéré du poids qu'il avait avec Nico Rosberg. On connaît le passé qu'il a eu et la rivalité exacerbée qu'il y avait avec le pilote allemand. Cette année, il est en maîtrise totale et depuis que la Mercedes et que son équipe a trouvé les réponses aux problèmes qu'ils avaient, notamment avec les pneumatiques, il est imbattable. Et chez Ferrari, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis.
RMC Motors, le best-of.
Je vous préviens, on est parti pour un grand prix là dans ce Motors spécial, accompagné bien sûr par Adrien Tambay. Bonjour Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Par Louis Amard du côté du Brésil. Salut Louis.
Salut à tous.
Et par Patrick Tambay. Salut Patrick.
Bonjour messieurs.
Est-ce que du coup, avec la petite erreur ou la grosse erreur commise par Lewis Hamilton dans les premières secondes de la qualif en Q1, ça a libéré Valtteri Bottas?
Oui, ben voilà. Ils vont tous avoir les oreilles qui vont chauffer cet après-midi quand ils seront poursuivis par Hamilton qui va tenter de remonter. Maintenant, je crois que Bottas a eu bien sûr libre piste de faire son...
La bride sur le coup.
Voilà, il était complètement libéré et c'était un petit peu le cas de Rosberg l'année dernière, souviens-toi.
Bien sûr. Ton avis, Louis, sur cette question, effectivement, avec cette erreur étonnante, hein, je sais pas si tu as une info à nous apporter, parce qu'il regardait un petit peu l'arrière de sa voiture pour évaluer les dégâts. On sait d'ailleurs que Lewis partira depuis les stands.
Oui, absolument, de la voix des stands, Lewis Hamilton. Il a été très honnête, le Britannique, quand il s'est présenté devant les médias hier après son accident. Il a dit, c'est de ma faute. Voilà, c'est, il n'y a pas d'autre explication à donner. C'est une erreur de ma part et je l'assume. Et c'est pour ça aussi que on a décrit l'image hier pendant la séance de qualification. Il est arrivé très marqué, très fermé pour répondre aux journalistes. Quant à Valtteri Bottas, évidemment, il a eu le champ libre après l'échec de son équipier en Q1. Maintenant, lui-même le dit, il aurait aimé pouvoir se mesurer à Lewis Hamilton en qualif hier parce qu'il sentait bien sa voiture, il sentait qu'il aurait pu également passer devant Hamilton. En tout cas, c'était important pour le Finlandais de remporter cette pole devant Sébastien Vettel parce que Bottas, il a quelque chose à aller chercher en cette fin de saison. C'est la deuxième place du championnat des pilotes et Sébastien Vettel le devance pour l'instant de 15 points. Mais avec cette pole position, Bottas fait un petit pas pour essayer de le devancer en fin de saison.
Et bien oui, puis ça, cette troisième pole, il l'attendait, Adrien, effectivement. Alors est-ce que ça a pu le libérer que le quadruple champion du monde commette une erreur?
Et si on s'occupait pas un peu plus de Valtteri Bottas chez Mercedes aussi, depuis que le titre est joué du côté de Lewis Hamilton, bien comme sûr. Par hasard, depuis le début du week-end, il est au niveau de Lewis Hamilton en performance. Alors après, on peut se dire aussi qu'il apprécie ce circuit-là. On se rappelle qu'il a fait la pole position en Autriche et c'est aussi un circuit avec du dénivelé, avec des virages rapides, un peu comme le premier secteur d'Interlagos et le dernier. Après, l'aspect mental, il a été libéré de Lewis Hamilton après l'erreur du Britannique dans le premier tour, mais par contre il a eu aussi plus de responsabilités du coup, donc c'est à double tranchant.
C'est une addition.
Ce qui est sûr, c'est qu'il est fort depuis le début du week-end et que apparemment les réglages de sa voiture depuis le début du week-end conviennent à son style de pilotage.
Eh ben, ça tombe bien. Évidemment, Louis Hamar était le rencontré. Valtteri Bottas, écoutez ce qu'il pense de cette pole, la troisième de sa carrière de pilote de Formule 1 et la troisième de cette saison 2017.
Very good, you know, it's just very happy.
C'est très bien, je suis très content. La deuxième partie de saison a été difficile pour moi jusqu'à maintenant, même si ça va mieux depuis quelques courses. Je travaille dur, à la fois de mon côté et avec les ingénieurs, et ça paye, tant mieux. C'est dommage que Lewis n'ait pas été là à la fin, parce que j'aurais aimé pouvoir me mesurer à lui ici. Mais c'est pas grave, il sera fort pendant la course. Donc oui, je suis très heureux.
Et oui, il était un petit peu en perte de vitesse dans la deuxième moitié de la saison, en tout cas par rapport à ce qu'il avait démontré dans la première, où il était tout près du niveau de Lewis Hamilton, dont on sait maintenant que c'est un quadruple champion du monde. Alors évidemment, pour qu'une victoire soit belle, il faut des adversaires. Patrick, le premier adversaire, en tout cas sur la grille de Valtteri Bottas, ce sera un certain Sébastien Vettel qui n'a pas dû encore digérer d'avoir perdu le titre cette saison.
Oui, et puis je pense qu'il a peut-être pas encore digéré non plus de se retrouver derrière Bottas. Je crois qu'il va probablement tout donner pour être en mesure de gagner cette course avec le panache et avec pour se racheter aux yeux des tifosi, parce qu'en Italie, c'est une amère défaite que celle de Ferrari.
C'est une amère défaite, effectivement. Louis, Sébastien Vettel, 4 pôles cette saison, mais à opposer aux 11 de Lewis Hamilton. On peut dire qu'il reste 2 courses maintenant, enfin une pôle, la dernière à Abu Dhabi, et 2 courses à Vettel pour démontrer que c'était peut-être lui le plus fort.
Ah, sur la pole position, il va avoir du mal quand même, parce que dans cet exercice, Lewis Hamilton est un maître incontesté, en plus aidé par le fameux bouton magique dont on vous parle chaque samedi de qualif sur RMC, le bouton magique de Mercedes qui permet aux flèches d'argent d'avoir un petit surcroît de performance en qualification et d'aller jouer plus facilement la pole, alors qu'en course les écarts sont souvent plus resserrés entre Mercedes et Ferrari. Effectivement, c'est ça l'enjeu pour Sébastien Vettel, construire sur ces deux derniers Grands Prix une dynamique, un élan pour pouvoir arriver avec davantage de confiance la saison prochaine, où là il espère encore pouvoir se rapprocher d'Hamilton dans la course au titre. Il faudra aussi sans doute compter la saison prochaine avec des Red Bull qui démontrent leur progrès de week-end en week-end.
Allez, on écoute tout de suite au micro de Louis Hamar Sébastien Vettel après cette deuxième position. Est-ce que ce sont les conditions délicates, on va parler avec Adrien dans un instant, qui l'ont fait rater cette pole ou perdre cette pole?
Non, ce ne sont pas les conditions, c'est de ma faute. Je pense que j'ai été un peu timide, et notamment au premier virage où j'aurais sans doute dû prendre plus de risques. Ça s'est amélioré pendant mon tour, j'avais plus de grippe à la fin, j'ai attaqué mais je n'ai pas pu rattraper le retard que j'avais pris au début. Ça sera une course importante pour moi, je dois défendre ma deuxième place puisque je n'ai pas gagné le titre. Pour l'instant j'ai encore un peu d'avance, même si Bottas partira en pole, donc notre principal objectif c'est de gagner la course.
RMC Le best-of.
Voilà pour les meilleurs moments de la deuxième moitié de la saison de Formule 1 2017 qui a vu le titre, le quatrième titre de champion du monde de Lewis Hamilton. Et on se retrouvera évidemment la saison prochaine sur RMC, la radio de la Formule 1. Dans un instant, la deuxième partie après le tour de chauffe, et bien ce sera le briefing et on parlera d'autres disciplines puisque vous le savez, dans Motors, on s'intéresse à toutes les disciplines des sports motos.
RMC, Motors, le best-of. RMC, 13h-14h, Motors.
Dans quelques instants, la suite du best-of de Motors. Mes petits détours par la Première Ligue. Crystal Palace, Manchester City, Timothée Mémon.
21 minutes de jeu 0-0 entre Crystal Palace et Manchester City dans un match extrêmement haché et extrêmement rugueux qui a déjà coûté la sortie de Scott Dane qui est sorti après s'être blessé au genou. Et vraisemblablement, il va être suivi par Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City qui a pris un choc tout à l'heure au genou gauche et qui est là, est en larmes sur la pelouse de l'Hurst Stadium. 0-0 donc après 22 minutes de jeu entre Crystal Palace et Manchester City.
Allez, c'est reparti pour le best-of de Motors. Nous, on se retrouve à 14h pour l'Intégral Sport.
RMC Motors, le best-of, Jean-Luc Roy.
Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant pour cette deuxième partie de Motors. C'est dommage, vous avez raté la première partie consacrée à la Formule 1. C'est le briefing et dans ce briefing, eh bien, on va retrouver d'autres disciplines, des sports mécaniques puisqu'on s'y intéresse régulièrement tout au long de l'année. On parlera de Pikes Peak notamment avec Romain Dumas et puis on parlera du championnat du monde d'endurance, le fameux WEC, le WEC qui comporte les 24 heures du monde. On parlera avec Gérard Neveu et avec Pierre Quillon. C'est maintenant dans Motors.
RMC Motors.
150 mètres, droite 120.
Le briefing.
Compagnie de Romain Dumas. Salut Romain.
Bonjour.
Je te remercie beaucoup d'être en direct dans Motors aujourd'hui. Je sais que tu prends un petit peu de répit, un petit peu de repos après ton programme chargé. Alors justement, j'aimerais bien qu'on revienne en quelques mots ou plus si tu veux sur ton Dakar que tu as mené dans le top 10 hein, avec une Peugeot privée qui était pas du tout les mécaniques les plus performantes qu'il y a eu cette année aux mains des pilotes officiels. Mais je crois que chaque année, ton capital d'expérience croît dans cette épreuve qui te tient à cœur.
Oui, effectivement, j'ai commencé l'année, ou fini l'année, comme vous voulez, avec le Dakar, comme l'année dernière. Cette année, j'avais une Peugeot 3008 DKR, qui était une très très bonne voiture. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'était directement les un peu copie conforme, on pourrait dire, de la voiture d'usine. Et bon, certes, j'ai pas l'expérience, on pourrait dire, des experts de la discipline, mais en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. J'ai terminé 8e. On a ouais. Avec ma propre équipe, ce qui est chaque année quand même un challenge.
Bien sûr.
Et on a fait des performances assez sympas. On sait quand même, on a aussi commis encore des erreurs. On s'est perdu, on s'est ensablé, enfin, comme, oui. comme tout bon amateur maintenant un peu plus éclairé, mais. Non, ça s'est plutôt bien déroulé.
Ça fait partie de l'expérience, effectivement. J'imagine qu'il est un peu tôt pour en parler, mais que tu vas essayer de remonter un projet et de continuer dans cette courbe d'expérience du Dakar. Et moi, à chaque fois que je te reçois, je le souligne avec insistance. Ce qui me plaît beaucoup chez toi et chez les pilotes comme Stéphane Sarrazin également, c'est votre éclectisme. C'est-à-dire que vous êtes des vrais pilotes, et ça c'est un compliment, crois-le dans ma bouche, à l'ancienne, capable de briller sur tous les terrains et dans toutes les disciplines, parce que vous êtes des vrais passionnés. Ça c'est important, Romain.
Bah oui, ça c'est sûr. Je pense que de toute manière, la force ou la chance qu'on a, c'est d'aujourd'hui pouvoir conduire plein de voitures, et aussi, je pense que quand on est un pilote, si on a la chance de pouvoir participer à plein d'épreuves, ben, on se doit de le faire, si on est passionné en tout cas. Donc moi, pour ma part, je pense que, comme c'est d'ailleurs le cas pour Stéphane, même le cas pour Sébastien Loeb, il a participé à plein de courses. Ouais. Si on peut faire ça, il ne faut pas hésiter. C'est pour ça que dans l'année, depuis quelques années, si je peux faire le Dakar, les 24 heures du Mans, le championnat du monde d'endurance et pas explique au milieu et des rallyes, il n'y a plus grande course auxquelles je n'aurais pas participé à part la Formule 1, mais là, je suis bien trop vieux pour ça.
Et Indianapolis. Voilà, pourquoi pas.
Et Indianapolis ou non, là, ouais. J'ai aussi passé mon âge, mais voilà.
Alors, Romain, on va parler justement de Pikes Peak. Je le garde pour la bonne bouche, hein, puisque c'est ton projet. Tu l'as déjà emporté à deux reprises là-bas sur cette course de côte. On dit toujours la plus célèbre du monde, mais il y a encore des challenges et des défis. Tu parlais d'endurance il y a un instant. Je rappelle évidemment que tu es pilote Porsche, que tu es champion du monde en titre, vainqueur de cette saison 2016 et vainqueur des 24 heures du Mans. Quel va être ton planning? Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Est-ce que tu as déjà une vision? Est-ce que tu vas rouler en IMSA aux États-Unis?
Ouais, en fait, avec Porsche, ça va être très clair. Je vais faire toutes les courses de 24 heures.
D'accord.
Que ce soit les 24 heures de Nürburgring où on va avoir une voiture officielle, ce qui ne s'est pas fait depuis 3 ans, donc une course moi que j'avais remportée je crois 4 fois dans le passé.
Bien sûr.
Qui me tient bien à cœur, donc ça sera un GT. On aura aussi une voiture aux 24 heures de Spa, où là ça m'intéresse aussi de faire, parce que même si c'est que du GT, on peut gagner au général.
Bien sûr.
Après pour le Mans, pour tout vous avouer, dans 2 jours je serai à Vallelunga pour 3 jours d'essai avec la nouvelle RSR moteur central. Donc Porsche aimerait que je fasse le Mans avec cette voiture. Aujourd'hui, c'est pas encore vraiment calé parce que je regarde un peu à côté s'il n'y a pas un petit proto qui pourrait m'intéresser. Néanmoins, on pourrait dire je serais sinon dans la GT. Et par contre, je vais effectivement faire pas explique, continuer la Coupe du Monde en rallye RGT que j'ai commencé au Monte Carlo où on a gagné avec la Porsche. Hein.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est 5 épreuves dans l'année avec le rallye de Corse, un rallye en République Tchèque, un rallye après en Suisse et en Italie. Et pas explique au milieu de tout ça, donc ça va être ça suffira à la fin de l'année. Oui. Ça fera toujours une quinzaine de courses, donc ça suffit un mix entre Porsche et aussi mon équipe aussi qui engage à chaque fois les voitures pour moi à chaque épreuve hors Porsche quoi.
Bien sûr et on sait que c'est difficile hein, d'avoir une équipe privée. Ta présence par exemple en Coupe du Monde RGT là c'est privé ou Porsche t'appuie totalement?
Non, tout le monde pense que c'est Porsche qui appuie, mais non, c'est complètement privé.
D'accord.
Tout m'appartient, que ce soit de la voiture au camion, au mécano, etc. C'est complètement à titre privé.
D'accord.
C'est bien, cette année, on commence à avoir un peu de compétition avec Abarth, en plus, qui là, par contre, sont engagés officiellement, donc c'est assez sympa, on a un peu de compétition, donc ça, c'est bien.
D'accord. Alors Romain Dumas qui est avec moi donc vainqueur, on le rappelle, des 24 heures du Mans et puis champion du monde en titre en endurance. Romain, tu parlais des 24 heures du Nürburgring, de Spa, ça aussi ce sont des grands noms et ce sont des classiques, j'allais dire des références du sport automobile avec deux circuits terriblement exigeants, notamment le Nürburgring. Et on se rappelle avec cette Nordschleife de plus de 23 kilomètres, là c'est carrément du délire.
Ah oui, là c'est le vrai délire, c'est pas la course la plus connue en France, c'est sûr, puisque le Mans, on peut dire de toute manière que c'est la course d'endurance au monde la plus connue. Ouais. Mais Nürburgring, c'est de loin la plus difficile en termes de pilotage. Mmh. Vous avez ces 23 kilomètres avec le circuit parsemé d'embûches, avec à des endroits il pleut, des endroits c'est sec, 150, 180 voitures sur la route, ça dépend combien d'années.
Ouais.
Ça dépend des années. Il n'y a rien de plus compliqué que ce circuit, très très peu de lignes droites. C'est pour, en tout cas pour moi, la référence d'un circuit d'une course de 24 heures. Mais si de toute manière vous avez un accident au Nürburgring au 3e kilomètre, je peux vous dire que vous arrêtez là, vous rentrez pas au stand parce qu'il reste 20 à faire.
C'est trop long.
C'est vrai, il n'y a pas de bac à sable, il y a les rails tout le long, c'est un circuit très exigeant, très difficile. Et maintenant, c'est en Allemagne, c'est l'événement d'ailleurs allemand qui a le plus de spectateurs avec, comme au 24 heures du Mans, plus de 250 000.
RMC, Motors, le best-of.
Tout de suite, on va foncer au Mans et retrouver rien moins qu'un vainqueur des 24 heures du Mans, en l'occurrence Romain Dumas, nouveau pilote alpine. Salut Romain.
Salut, bonjour à tous.
Et coach, je te remercie vraiment de prendre quelques minutes, hein, parce que tu es descendu du baquet. On rappelle que c'est la journée test des 24 heures du Mans, où les 60 équipes qui sont retenues pour participer à cette édition peuvent peaufiner, on va dire, les réglages de leur machine. Alors parle-nous, Romain, je le rappelais, hein, tu es vainqueur des 24 heures du Mans pour Porsche, tu les as déjà remportés à 2 reprises. Alors comment ça se passe à bord de cette LMP2 Alpine, une équipe française?
Ah ben, écoutez, plutôt bien. C'est déjà toujours un plaisir de retrouver ce circuit qui est juste incroyable. Donc ça, c'est déjà bien. Après, écoutez, la catégorie LMP2 est très fournie cette année. Il y a plus de 20 voitures dans la même catégorie, donc le niveau est très élevé. Néanmoins, bon, on a bien roulé ce matin. Chez l'équipe Alpine, il y a 2 équipages. D'ailleurs, le numéro 35, mes équipiers ont fait le meilleur temps. On en a pu faire 3e ou 4e temps ce matin. Donc oui, c'est plutôt pas mal. On a un bon rythme, on se fait plaisir. Après, vous savez, c'est que les essais, tout le monde cache son jeu, essaye des réglages différents. C'est ça la préparation des 24 heures du Mans, quoi.
Bien sûr. Alors, tu roules avec Gustavo Menezes et Matrao hein, dans l'une de ces 2 Alpines A470. On rappelle que c'est un engagement fort, évidemment, pour cette équipe alpine. Et comme tu le disais, alors, c'est l'évolution des performances qui est impressionnante. Toi qui roulais avec les LMP1 hybrides, tu peux nous confirmer, Romain, on a gagné combien on parlait de 8 à 10 secondes sur le tracé du Mans pour les LMP2.
Oui, ce matin, ils ont déjà, si on prend le meilleur temps, il y a déjà 7 secondes de moins. Dès la première matinée d'essai. Ce qui est sûr, c'est que pour la première fois au Mans, vous allez avoir sur la grille, après les qualifications, je pense entre
25 et 30 voitures sous les 3:30, sous dans les 3 minutes 30, ce qui est vraiment incroyable. C'est un temps
incroyable.
C'était des temps de pole position il y a moins d'une dizaine d'années, où il n'y avait juste que 2-3 voitures qui faisaient ça un peu plus. Donc ça a vraiment évolué. Et je pense que le spectacle va être vraiment intéressant du coup.
Ah oui, ça c'est clair que ça va être absolument génial. On rappelle que sur l'autre Alpine, il y a Nico Lapierre hein, que l'on salue. Je pense que tu t'entends formidablement bien avec lui. Et puis Gustavo Menezes et Eric Elmi. Voilà les deux équipes, c'est l'actualité du jour. Alors, évidemment, on l'a dit, il n'y a pas d'enjeu, entre guillemets, en sens propre, dans ces essais, cette journée test du Mans, si ce n'est de prendre contact avec ce tracé si particulier après les deux premières épreuves de Silverstone et de Spa. Alors, une actualité, elle est toujours très chargée pour toi, Romain, parce que moi, ce que j'aime beaucoup, je te le dis vraiment à chaque fois, c'est que tu es un pilote éclectique dans le bon sens du terme et que tu vas t'attaquer au monstre de Pikes Peak, alors avec un engin de folie, la Norma MXXRD. Alors j'ai vu les photos, là c'est pas très radiophonique, mais alors la dimension des ailerons, c'est carrément impressionnant. Hein.
Oui, on a fait cette année une toute nouvelle voiture encore, on a gardé le châssis de l'année dernière, la coque du milieu, par contre on a changé 60% de la voiture avec des ailerons effectivement très très gros, très très larges. La voiture fait 2,30 m de large, donc il n'y a jamais eu un proto qui a fait cette largeur, puisque c'est maximum 2 mètres. Forcément, grâce à ça, on a beaucoup d'appui aérodynamique. Donc ça, c'est le point positif. On est chaussé cette année avec des pneus Michelin en 18 pouces, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ça aussi, ça va être un bon gain. Après, il va falloir voir là-bas, sur place, ce que ça va donner. Vous savez, tester en France, c'est quelque chose. Tester là-bas, c'est en une autre. Donc... il va falloir essayer de s'adapter le mieux, le plus rapidement possible. Mais en tout cas, je pense qu'on n'a jamais été aussi bien préparé que cette année.
RMC, Motors, le best-of.
J'ai le plaisir d'accueillir dans Motors Gérard Neveu, le directeur général du championnat du monde d'endurance. Bonjour Gérard.
Bonjour Jean-Luc.
Merci beaucoup d'être avec moi en direct. On s'était parlé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Mais là, tu es sur le circuit de Monza où se déroulent donc les premières séances d'essai officielles. On va commencer peut-être par les présentations puisque on a eu droit aux toutes nouvelles machines qui vont être engagées par Toyota et par Porsche notamment.
Absolument. Alors on est à Monza, au-dessus du pit lane, sur le podium pour être précis.
Super, bel endroit.
Ils sont en train d'envahir le très bel endroit. Des milliers de fans qui sont en train de s'approprier la voie des stands, puisque c'est l'heure de la visite des garages et de la signature des autographes des pilotes. Donc la rencontre entre les pilotes du WEC et les fans, tout ça sous un soleil radio, c'est un moment toujours très intéressant, qui succède à la présentation des voitures qui ont eu lieu vendredi, avant les premiers roulages de ce week-end. Et effectivement, on a dû découvrir les deux P1 hybrides, celle de Porsche, celle de Toyota. Superbe au moment de la séance de photos, mais encore plus belle dès l'instant où on démarrait les sessions de roulage. On a pu constater que ces deux voitures étaient une nouvelle fois très proches les unes des autres. Il y a eu un chassé-croisé pour ce qui était du meilleur temps, tantôt la Toyota, tantôt la Porsche. Tout ça nous rend très impatients avant le début de la saison à Silverstone dans 15 jours.
Eh oui, j'ai vu ça, effectivement, Gérard. On va rappeler les équipages hein, pour Porsche qui ont été modifiés, avec notamment Neil Jani, André Lotterer, qui vient de chez Audi, on le sait, et Nick Tandy, qui avait remporté Le Mans pour cette équipe Porsche il y a 2 ans, et puis Timo Bernhard, Earl Bamber, qui lui aussi avait été vainqueur avec Nick Tandy, et Brendan Hartley, dont on connaît le talent. Ça, c'est pour Porsche. Alors, il y a eu un accord, je crois, Gérard, également, entre les constructeurs pour ne pas changer de châssis. Hein. Dans l'immédiat, on va conserver, je crois, les mêmes châssis jusqu'à 2020, c'est bien ça?
Voilà, l'idée c'est que d'abord il faut faire attention, on vit pas dans une bulle, on vit dans un rêve parce que c'est magnifique.
Oui.
C'est du monde, mais ça reste dans un environnement économique qui est toujours sérieux et fragile. Donc l'idée des constructeurs a été de dire que afin de ne pas laisser des budgets déraper, on allait maintenir. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait une évolution importante dans un règlement, ça a forcément une incidence sur les budgets parce que ça implique de nouvelles recherches, de nouveaux développements et de construire une nouvelle voiture. Donc l'idée c'est de garder jusqu'à 2020 le châssis existant et dans le même temps on a entamé des discussions avec des constructeurs potentiellement intéressés pour rejoindre l'hybride afin de s'assurer que le règlement de 2020 corresponde à la volonté de chacun. On garde toujours une plateforme très ouverte sur la technologie, on a des voitures avec des doubles systèmes hybrides, donc on reste très axé là-dessus, mais on essaie dans la mesure du possible de trouver toutes les astuces au niveau des règlements en concertation entre les constructeurs, la FIA et la CO, pour faire en sorte que ces budgets soient des budgets ambitieux, mais en même temps raisonnables, qui permettent de s'inscrire dans la durée.
Alors, pour Toyota, on aura Mike Conway, Kamui Kobayashi et Yuji Kunimoto. Et puis, Anthony Davidson, Kazuki Nakajima et Nicolas Lapierre. Forte présence, évidemment, des pilotes japonais. Ça tombe bien, Gérard, parce que je dois avoir normalement Nicolas Lapierre, hein, s'il arrive à trouver son téléphone juste après toi. Ouais. Alors, cet affrontement au plus haut niveau, on en a parlé. Et je sais, je crois savoir...
Nicolas Lapierre, on peut dire au passage que c'est un super bonheur de le voir là, parce que
oui.
Nico, il a un double volant, il pilote l'Alpine en saison et il fera la troisième voiture, la troisième Toyota à Spa et aux 24 heures du Mans.
Oui.
Et quand on sait l'histoire de Nicolas Lapierre avec cette LMP1, c'est quand même un vrai bonheur de le voir de retour, venir se bagarrer pour la victoire au Mans avec une paire hybride. C'est largement mérité par ce pilote au demeurant sympathique, mais surtout très talentueux.
Dans ce briefing, dans cette deuxième partie de ce moteur spécial, 31 décembre, le tout dernier de l'année, et pour cause, on vous a parlé donc de Pikes Peak, on vous a parlé du WEC, on s'intéresse à toutes les disciplines dans Motors. On va parler dans un instant d'autres disciplines encore, notamment de moto pour le championnat du monde Super Sport, et puis même du WTCC. Bon, restez là.
RMC Motors, le best-of. RMC Motors, le best-of. Jean Lecroix.
Et oui, c'est déjà la dernière partie de ce moteur spécial du 31 décembre 2017 qui restera évidemment dans les annales puisque c'est une partie des meilleurs moments de l'émission. Pour cette troisième partie, l'invité ou plutôt les invités, eh bien ce seront Lucas Mayas, il est champion du monde super sport, le pilote de moto, on va l'écouter. Et puis on va écouter Yvan Muller qui avait fait une pige supplémentaire. Il est multiple champion du monde WTCC, il était au micro d'Alain.
RMC Motors.
120.
Le briefing.
Le briefing qui nous permet d'accueillir un nouvel invité de choix, c'est Yvan Muller qui est avec nous en direct. Salut Yvan.
Salut, bonjour à tous.
Ah, écoute, ça nous fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui en direct. Dois-je rappeler que tu es évidemment un quadruple champion du monde, hein, comme Lewis Hamilton, comme Sébastien Vettel, en matière de voiture de tourisme, hein, mais ça le fait déjà très très bien, que tu es l'incontestable meilleur pilote qui ait jamais existé sur terre, sur glace ou sur neige, hein, puisque tu as gagné 10 fois le trophée Andros, que tu as gagné les voitures de tourisme en Angleterre en 2003, que tu as fait 2 fois le Mans, enfin bref, non, je t'ai plus, tu es une véritable légende du sport automobile français, tu as pris ta retraite quand même il y a quelques temps. Et alors j'apprends que tu es revenu aux affaires ce week-end. Alors Yvan, pourquoi es-tu sorti de ta retraite pour aller au Qatar faire la dernière manche du championnat du monde des voitures de tourisme?
Bah, effectivement, j'ai pris ma retraite il y a un an pile. Et puis mes nouvelles fonctions que j'ai prises chez le team Polestar Cyan ont fait que pendant toute l'année, j'ai été très impliqué dans cette équipe en les conseillant du mieux possible pour atteindre l'objectif fixé d'être champion du monde.
Voilà, donc c'est la marque Volvo hein, qui est responsable de cette structure, évidemment. Ouais, ouais.
Voilà, la marque Volvo, donc j'étais là pour les aider et de les conseiller. Mon rôle est celui de senior advisor. Alors, je sais pas comment je dois prendre le terme senior, mais
oui,
je vais bien le prendre.
Ben oui, c'est l'expertise, c'est l'expérience, voilà.
Voilà, on va dire ça. Tout au long de l'année, évidemment, je montais régulièrement dans la voiture pour faire du développement. C'était aussi un de mes autres rôles que que j'ai dans cette équipe. Et arrivé à la dernière épreuve, ils m'ont demandé si je voulais bien remettre le casque, faire une pige pour les aider à remporter ce titre à la dernière épreuve. Ce dont j'ai évidemment répondu présent parce que je m'étais jamais fermé la porte de refaire de temps en temps quelques piges.
Bon.
Et cette occasion était une bonne occasion.
Bon, donc tu nous confirmes quand même que c'est une pige, effectivement, et que tu vas pas remettre le casque et revenir en compétition régulièrement.
Non, c'est pas prévu.
Bon, ok. Cela étant, dis donc Yvan, mais... Alors, les objectifs ont été remplis, hein. C'est bien Ted Bjork, le pilote Volvo qui a été sacré champion du monde donc au Qatar ce week-end. Donc voilà, mission remplie. Et toi, je vois que tu fais 6 et 7 des deux courses. Attends, c'est fabuleux.
Oui, mais le résultat n'était pas important. Ce qui était important, c'est que je puisse être autour de Ted justement et de le protéger et marquer des points. Pour le titre constructeur, l'objectif étant atteint. Après, ma position était peu importante. Moi, je me suis pendant les deux courses tenu proche de Ted, de le protéger, de lui servir de garde du corps pour lui éviter des embûches. Donc, l'objectif était atteint. Après, je suis pas mécontent de ma performance. En qualif, j'étais en Q3. je tente un coup en faisant une pole, bon, ça marche pas, et finalement, je fais P5, donc, mais c'était plutôt sympa, et le résultat final, encore une fois, pour moi, n'était pas important.
Bon, attends, je vais quand même insister un petit peu, on apprécie ta modestie, elle est toute à ton honneur. Non, ce que je veux dire, c'est qu'Yvan, quand même, d'accord, t'avais un rôle un peu d'aider ou d'empêcher à l'autre adversaire de marquer des points, d'accord, mais tu aurais pas terminé dans le top 10, personne te l'aurait reproché. Là, tu fais 6 et 7, tu reviens de retraite pratiquement et t'es dans le peloton un peu de tête quand même. Donc franchement, non, tu nous as épaté.
Bah, ouais, effectivement, que ce soit Ted Bjork comme Nick Casper, qui sont tous les deux les pilotes titulaires, j'étais tout le week-end et pendant les deux courses dans leur chrono. Ce dont je suis relativement heureux, parce que j'avoue que avant de remonter dans la vraie en début du meeting, j'étais pas vraiment rassuré. Ça faisait un an que j'avais pas mis les fesses à la voiture pour faire une compétition. Donc l'énergie et la concentration demandée n'est pas la même que celle de faire du développement. Et finalement, j'ai été rassuré assez rapidement sur mes performances et j'étais suffisamment rapide pour rester autour d'eux.
Bon, bah écoute, oui, non, vraiment, tu peux être fier. Alors, je suis obligé de te poser la question, on a tous appris, de manière un petit peu affligeante, que tu avais reçu des menaces de mort. Ça semble incroyable. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu et nous dire exactement ce qu'il en a été?
Non, on va faire court, parce que je pense que ça ne mérite pas, mais effectivement, depuis l'année dernière, j'avais eu des fans d'un pilote qui se sont un petit peu acharnés sur moi pendant tout au long de l'année, et puis là, genre... L'annonce a été faite que j'allais revenir pour cette course-là. C'était reparti de plus belle. Alors bon, d'avoir des messages désagréables de fans d'un autre pilote, on a l'habitude et on peut pas faire l'unanimité. Mais quand ces messages deviennent des menaces envers ma famille et moi-même, je pense qu'on avait largement dépassé la limite et, oui. il a fallu que j'en parle pour que ça cesse et ça calme. Fort heureusement, je pense quand même, et les messages que j'ai reçus depuis, d'autres fans et des compatriotes de ce pilote m'ont montré que c'était quand même pas une majorité des gens. Mais voilà, il fallait quand même le dire pour que ça cesse.
Oui, non, mais c'est ça. Là, c'est sûr que ça a vraiment mis un coup de froid là. Et c'est vraiment très très dommage. Bon, alors donc on va se satisfaire de ton bon retour. Hein, on le répète. Que vas-tu faire alors de tes prochains mois? Quel est ton programme quand même en 2018? Maintenant que t'es revenu, si j'ose dire encore à la retraite.
Oui, je reviens à la retraite, presque au musée en tant que pilote, mais non, je vais continuer ce que j'ai fait cette année, c'est-à-dire que mes fonctions auprès de Volvo vont rester les mêmes, même s'il n'y a pas encore un programme bien défini pour 2018, mais en tout cas il y en a un pour 2019, donc je reste au sein de cette équipe pour préparer le futur, et puis je continue à m'occuper de mon équipe qui s'engage encore une fois en LMP3, qui va aussi s'engager en GT4, et je travaille aussi sur un autre programme qui, pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler, mais qui est plutôt en bonne voie.
RMC Motors, le best-of.
Alors, le briefing avec deux invités aujourd'hui qui sont avec nous en direct. Tristan Gomendy d'abord. Salut Tristan.
Bonjour Laurent Frédéric.
Et puis dans quelques instants, c'est Didier Calmels qui te rejoindra, mon cher Tristan, pour nous parler donc de ce fameux défi français qui va s'attaquer à Indianapolis, les 500 miles d'Indianapolis au mois de mai prochain. Alors je voudrais d'abord te donner la parole, Tristan. Je précise d'ailleurs que je suis en train de t'interrompre dans un véritable travail, puisque tu es normalement cet après-midi en train de commenter la course d'European Le Mans Series en direct sur Motorsport TV. Donc tu nous fais une petite infidélité pour répondre sur RMC. Merci à toi, Tristan.
Pas de quoi, avec plaisir.
Bon, en tout cas, donc Indianapolis, bah tu vas en faire partie, hein, Tristan. Je crois que maintenant on a tous appris la nouvelle. Dans 8 mois, tu seras au départ d'une des 3 plus grandes courses du monde. Hein, c'est comme ça qu'on la nomme. Hein. Il y a le Grand Prix de Monaco, il y a les 24 heures du Mans, il y a les 500 miles. Et donc, a priori, c'est toi le pilote, hein, de ce défi français. Tu peux nous dire ce que tu ressens lorsque je te rappelle ça de manière un petit peu brute?
Ouais, une petite montée d'adrénaline.
forcément.
On essaie de. Je pense que ça va être important de garder beaucoup de calme et de sérénité jusqu'au bout de ce projet. ce sera pas forcément chose facile à certains moments, mais ça fait partie, ça fera partie de l'objectif, et ce sera très important pour tout le monde de garder la tête froide jusqu'au bout et si possible jusqu'au dernier tour de cette épreuve.
Bah oui. Alors je rappelle évidemment, Tristan, qu'on te connaît bien. Tu as été champion de France de Formule 3 il y a bien des années déjà, mais tu as enchaîné par une victoire au prestigieux Grand Prix de Macao, véritable championnat du monde de Formule 3. T'as été champion d'Europe d'endurance. T'as été en Champ Car aux États-Unis déjà avec une pole position, où tu as côtoyé déjà Sébastien Bourdais et Simon Pagenaud, les deux pilotes actuels français de l'IndyCar. Tu es actuellement pilote en championnat du monde d'endurance. Bon, tu es un pilote aguerri, ça on est d'accord, et on va pas te l'enlever. Simplement, il va falloir maintenant que tu sois sur un ovale où la vitesse moyenne autour est de plus de 350 km/h. Est-ce que même pour toi, ça va être un sacré challenge?
Oui, c'en est un, parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait le championnat de Champ Car, avant qu'il s'arrête, on avait que des routiers. Donc, même si effectivement j'ai une expérience des États-Unis et de ce genre d'auto, pour en avoir fait pour même pas mal d'années, puisque les autos aussi en Super League Formula pendant 5 ans, c'était à peu près les mêmes autos. Donc, je connais bien ce genre d'auto. Par contre, c'est vrai que les ovales étaient quelque chose qu'on n'avait pas dans le championnat. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. On a déjà fait une journée au simulateur Honda.
Ah oui. Alors.
Donc ça m'a permis de me rendre compte déjà un petit peu visuellement, et puis du feeling. Le simulateur est assez, il est très très bien fait. Donc, la
vitesse, tu la ressens même au simulateur, tu l'as ressenti?
Ouais, oui, parce que le simulateur est vraiment top niveau. Donc. Tout de suite, on a quand même ce feeling, et avec cette impression aussi bien corporelle que visuelle. Mm-hmm. Donc ça, c'était un très bon point de pouvoir faire ça assez rapidement pour avoir une idée de ce qui nous attend. Et puis de toute façon, c'était aussi un passage obligatoire.
Ah oui.
À la demande de l'organisation des 500 miles, à la demande de l'équipe technique qui va venir soutenir ce projet, il y avait cette demande pour avoir quand même aussi eux un retour et un feeling du pilote. C'était important, ça s'est très bien passé. Voilà, donc
ouais,
ça, c'est une première étape.
Très bien, ouais.
C'était important que ça se passe bien, parce que c'est un rapport qui a aussi été communiqué un peu à droite à gauche pour valider ma candidature. Donc ça, c'était bien, et c'était important pour moi aussi de pas rester dans l'inconnu. Voilà, parce que l'ovale, on le voit à la télé, l'imagine, mais il y a rien qui remplace quand même de monter dans une dans un cockpit et de pouvoir avoir son propre feeling.
Oui.
Donc ça a été fait positivement. Donc c'était la première étape.
Bon, et alors le roulage proprement dit, les premiers tours véritablement sur l'ovale, c'est prévu pour quand?
Alors, il y avait une date de prévu. On est en train de travailler sur le sujet, parce qu'en fait, il y a des process assez sérieux aux 500 miles, notamment les contrôles antidopage obligatoires pour la licence Indy. Donc, on est dans ce process-là. Ils sont en train de m'envoyer des petits bocaux. Il va falloir que je fasse un petit pipi. Donc ils ont leur process qui est vraiment qui est intransigeant.
Oui,
donc,
oui, c'est normal.
Donc on doit les respecter. Donc en fonction de ça, bon, il y a aucun doute sur les résultats, bien évidemment, mais malgré tout, au bout de ce process, on va essayer de trouver un roulage possible avec les contraintes météorologiques, parce que j'ai cru comprendre qu'en dessous de 15 degrés, on ne roulait pas sur ovale. Donc, le temps se fait pressant maintenant, puisque on arrive fin septembre. Il faut, on envisage éventuellement un roulage à Miami sur le circuit Homestead, mais on n'a pas encore déterminé tout à fait une date. Et si toutefois c'était pas possible de le faire rapidement, on envisagerait un complément de roulage avec l'auto 2018 peut-être. Mais tout ça est en discussion au jour le jour avec l'équipe.
Mais oui, mais c'est une véritable aventure là que tu es en train de vivre. Et le responsable aussi de cette aventure, il est là aussi avec nous, hein, donc on va pouvoir dialoguer. Enfin, vous allez pouvoir dialoguer. Nous, on va pouvoir discuter à trois. C'est Didier Calmels qui est avec nous en direct. Bonjour Didier.
Bonjour.
Merci.
Bonjour,
voilà, tout le monde. est branché avec tout le monde, super. Alors, Didier Calmels, homme d'affaires, fan de sport mécanique, Didier, hein, on se souvient bien sûr de cette équipe Larousse Calmels en Formule 1 dans les années 80. Vous êtes actuellement aux commandes de l'équipe Signatec Alpine en championnat du monde d'endurance. Et puis bah donc maintenant il y a la carte américaine que vous abattez. Il y a le défi, parce que je crois que le terme est vraiment bien le bon. C'est un défi français. C'est vous qui êtes derrière ce défi français pour aller s'attaquer à Indianapolis. Pourquoi, Didier, vous lancez-vous dans cette aventure?
Alors écoutez, d'abord c'est effectivement, vous l'avez dit, la passion. Indianapolis, c'est une course qui m'intéresse depuis l'adolescence. Je la trouve, tout le monde sait. Connaît le mot Indianapolis, mais les fans français ne connaissent pas vraiment l'histoire d'Indianapolis, ce que c'est et tout. Et moi, je la connais un petit peu et j'ai trouvé que c'était formidable de faire ça. Après, il y a l'idée d'Alonso qui a été pour moi un vrai déclic.
Ah bah oui, ça, je voulais vous poser la question. Est-ce que ça a joué?
Ça a été le déclic total. Parce qu'il a visé ce que nous appelons la triple couronne. Et c'est un défi formidable, c'est-à-dire le Grand Prix de Monaco F1, Indianapolis et Le Mans. Mm-hmm. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait exceptionnel. Et voilà, il se trouve qu'on m'a soufflé que je serais le premier Français à avoir, en tant que concurrent, participé à ces trois épreuves. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup motivé, quoi.
Bah, oui.
Et on a repris les couleurs de la F1. On a sur pour Indianapolis, mm-hmm. et on est en train de voir avec Pixino pour utiliser aussi. Ce projet pour Le Mans, quoi. Donc comme ça, on aurait fait les trois et ça serait assez fantastique, quoi.
Bon, bah écoutez, c'est extraordinaire. Est-ce que, Tristan, tu es sensible aussi à cette fibre un petit peu patriotique, j'allais dire française?
Oui, bien évidemment. Bien évidemment, parce que Didier a amené ce projet et pousse la France. Et je crois que ce qui est important dans le projet, plus que Didier Calmes, que Tristan Gomendy ou les noms qui vont pouvoir graviter autour de ça, c'est vraiment d'amener ce projet et de parler de la France et d'avoir cette aventure française qui traverse l'Atlantique dans cette épreuve hors norme. Donc c'est quelque chose, on avait nous ce feeling avec Didier quand on a commencé à collaborer. Et en fait, les retours qu'on a aujourd'hui nous confirment qu'il y a un vrai engouement et on s'est pas trompé sur l'idée principale d'amener la France aux États-Unis dans cette épreuve hors norme. Voilà.
Alors Didier, pourquoi avez-vous choisi Tristan aussi? Parce que de manière un peu amusante, je pourrais vous dire qu'il est votre adversaire dans le championnat du monde d'endurance, puisqu'il pilote pour l'équipe Jackie Chan, la fameuse équipe de Jackie Chan, et vous êtes avec Alpine.
Ouais. Alors tout d'abord, pour préciser, c'est vraiment, vous l'avez tout à fait dit exactement, c'est comme un bateau français qui participera à la Coupe América, c'est ça.
Ouais.
Et on a la chance que ça soit quasiment en prime time sur Canal+, qui est notre partenaire, à 20h. Donc c'est absolument merveilleux. Pourquoi Tristan? J'avais fait une shortlist en consultant beaucoup Philippe Chino et voilà, on avait retenu 3-4 noms. Les Américains, Sam Smith et Peterson, voulaient pas un débutant, voulaient quelqu'un qui ait fait beaucoup de monoplace, qui soit très mature. Vous savez que les moyennes sont extraordinairement élevées.
Ah oui, on en parlait. 380, c'est ça. Ouais, en vitesse de pointe, c'est sûr.
Non.
En moyenne, vous voulez dire? Ouais.
Et 4 tours de qualification, c'est à fond. Et je vous assure que quand vous voyez les virages, ça fait peur. Alors, on avait fait une shortlist, et je vais vous dire la vérité. Quand j'ai regardé, j'ai parlé aux 3 ou 4, et quand j'ai regardé Christian dans les yeux, il a même pas hésité qu'un seconde. Il a dit évidemment oui. Et ça, c'était très important, vous voyez. Parce que il faut beaucoup de détermination, beaucoup de savoir-faire qu'un Tristan, énormément d'expérience, et très fin metteur au point, mais où il faut aussi une envie invraisemblable, parce que c'est vrai que c'est quand même une épreuve absolument pas comme les autres.
Hein. Oui.
Et donc, il vaut mieux aller avec quelqu'un qui a infiniment plus envie que tout le monde. Et Tristan, c'est un battant, on le connaît, c'est un combattant, très bon metteur au point, et il a l'âge maintenant pour affronter une épreuve où il faut pas vraiment... vraiment de pause, quoi. Tout le monde le fait.
Et voilà, c'est déjà terminé pour ce dernier Motors de l'année 2017. Vous le savez, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque dimanche pour cette émission Motors où on parle de tout les sports mécaniques. Faut-il vous le rappeler, c'est la seule émission de sport mécanique à la radio en France. On parle de Formule 1, on parle du championnat du monde des rallyes, on parle de championnat du monde d'endurance, on parle des Grands Prix moto et vous serez avec nous, bien sûr, pour la saison 2018. Allez, même si j'ai quelques heures d'avance, je vous souhaite une excellente année 2018 à l'écoute de RMC. Salut à tous.
RMC, Motors, le best-of.